France Info.
Et voici Tout Public avec vous, Matteo Maestrachi.
Bonjour Lucie, bonjour à tous. Encore un joli programme aujourd'hui. Si vous aimez les séries télé, vous avez sans doute entendu parler de ceci.
Concentre-toi. Concentre-toi. Joue.
IBM veut un rematch. $1 million. Ce sera la plus grande bataille entre l'homme et la machine de toute l'histoire.
Le jeu est plus important que toi.
Rematch sur Arte, 6 épisodes, ils sont tous déjà disponibles en ligne sur le site d'Arte et les 3 derniers diffusés ce soir sur la chaîne à 20h55. Une série qui raconte, vous l'avez sans doute compris, le duel dans les années 90 entre un certain Garry Kasparov, champion du monde d'échecs, et le super ordinateur Deep Blue conçu par IBM, 6 matchs après une victoire de Kasparov l'année précédente. Bonjour Éloi Relange.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes président de la Fédération Française des Échecs, depuis 2021. Vous en arborez fièrement la polaire avec le logo FFE. D'abord, cette série Rematch, vous l'avez vue, j'imagine que vous l'avez dévorée.
Oui, dévorée en famille. C'est une série qui se regarde très très bien, qui met la tension échiquienne qu'on peut voir dans des matchs de très haut niveau, des matchs sportifs de très haut niveau, centré autour du personnage de Garry Kasparov, qui est quand même un personnage hors norme, comme on peut le voir dans la série et comme on peut le voir en vrai quand on le connaît un petit peu.
Cette série ne s'adresse évidemment pas qu'aux joueurs ou aux amateurs d'échecs, parce que ce serait un public assez restrictif. C'est l'une de ses qualités, c'est-à-dire que même si on n'est pas amateur, même si on n'a jamais joué, on comprend la plupart des choses.
Oui, alors la première chose, je vais quand même préciser que les échecs sont un sport extrêmement populaire, puisqu'il y a 5 millions de pratiquants en France. Donc c'est pas limité à une élite ou à une population très fine. 5 millions de pratiquants qui jouent une partie par an ou plus, et un Français sur deux qui connaît les règles. Et le sport est dans l'inconscient collectif de nombreux Français. Mais oui, je confirme, il n'y a pas besoin de savoir jouer aux échecs pour vibrer en regardant cette série. C'est un match homme-machine, donc ça dépasse les mouvements techniques du jeu d'échecs. Et ça se regarde vraiment avec grand plaisir et beaucoup d'enthousiasme.
Éloi Relange, vous ne m'en voudrez pas de dire votre âge ? Vous avez 48 ans, c'est sur internet, c'est public. Non, vous avez 48 ans, voilà pourquoi je dis ça. C'est que vous avez sans doute des souvenirs de cette époque. Vous étiez déjà joueur à l'époque, vous étiez déjà amateur de la discipline.
Oui, bien entendu. Alors, donc je suis effectivement président de la Fédération Française des Échecs, mais également grand maître international. Donc j'ai été en équipe de France, membre de l'équipe de France, puis capitaine de l'équipe de France. Et les joueurs de haut niveau commencent jeunes. Donc l'âge général pour commencer les échecs, c'est 4, 5, 6 ans éventuellement. Et c'est un parcours de joueur d'échecs se construit dans la durée. Il faut 10 à 15 ans pour devenir grand maître international. C'est un vrai parcours d'excellence. Donc oui, quand j'étais petit...
Je vous félicite du coup au passage.
Merci. Je suis né en 1976 et donc le match a eu lieu en 97. Donc j'étais déjà pleinement en possession de tous mes moyens pour suivre ça avec beaucoup d'attention, notamment la qualité des parties.
Est-ce que vous trouvez que cette série, parce qu'il y a le fond, il y a la forme, est-ce que vous trouvez qu'elle fait particulièrement honneur à la discipline, aux échecs et à tout le symbole qui s'en dégage et toute la stratégie qu'elle implique?
Alors c'est une excellente question parce que on va découvrir le personnage donc Garry Kasparov qui a été champion du monde pendant 15 ans, donc qui est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, à égalité avec Magnus Carlsen peut-être, qui a marqué son époque et son temps, mais qui avait un caractère très très difficile. C'était un dissident du bloc soviétique, relativement paranoïaque, très nerveux, très exigeant pour lui et pour les autres, qui, comme on le voit dans le film, va passer d'un coup à l'autre, va faire des pompes, va se remettre dans la partie, calcule extrêmement vite, vraiment un cerveau extrêmement impressionnant, mais des valeurs qui sont quelque part pas forcément très consensuelles. Il est agressif, c'est un joueur agressif. Donc je dirais que ça c'est la partie des échecs, ce côté agressivité, ce côté combat à mort qu'on va découvrir, qui n'est pas celle qui me parle le plus.
Nous aussi, à France Info, on fait des pompes entre deux invités. Non, c'est évidemment totalement fou.
Non, pas moi, non. Non.
Justement, tiens, vous parlez de son caractère. C'est une question que j'avais prévue plus tard, mais vous me tendez une perche. Le jeu de la reine sur Netflix, ça, c'est avec Anya Taylor-Joy. Que ce soit elle, enfin son personnage dans la série, ou Garry Kasparov, on ne peut pas vraiment dire que ce soit des personnes, alors brillants aux échecs, mais que ce soit des personnes ni très stables, ni très aimables. Rassurez, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 5 millions de pratiquants en France, rassurez les gens qui nous écoutent, on peut être très bon aux échecs sans être quelqu'un d'asocial.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, on croise, et ça y est, c'est d'ailleurs les personnages qui vont nous captiver pour romancer ou pour filmer ou pour faire des sujets. C'est ceux qui sont un petit peu décalés de la vie réelle. Mais la grande majorité comme dans la société française ou dans la société mondiale, la grande majorité des joueurs d'échecs d'excellence sont des gens comme vous et moi, tout à fait normaux, qui discutent chaleureusement.
Tout à fait. C'est fou d'ailleurs que cette histoire n'ait pas été adaptée plus tôt, parce que finalement il y a tous les ingrédients du parfait thriller et la série est construite comme ça. Vous l'attendiez depuis longtemps, cette série. Vous vous disiez pas, en tant qu'amateur d'échecs, ayant connu cette époque, ce serait vraiment super qu'on ait au mieux un documentaire, même si ça doit exister. Au pire un documentaire, au mieux une grande série sur cette histoire qui est formidable.
Oui, alors je préfère largement effectivement le rematch, comme on a pu le voir, la série sur un fait historique marquant des échecs, plutôt que ce qu'on a habituellement. C'est-à-dire qu'on a régulièrement le joueur d'échecs est complètement fou. Ouais. Donc on a beaucoup de films sur les échecs, mais qui vont montrer des personnages vraiment en décalage complet avec la société, avec le monde. Là, c'est pas le cas. Donc ça, j'aime bien. L'histoire est passionnante. Il y a IBM, il y a l'intelligence de l'homme contre l'intelligence de la machine. Il y a un enjeu qui est très fort. Et c'est, je trouve, moi, très bien expliqué. Les parties sont réelles, réalistes. On voit Kasparov dans les moments de doute, quand il comprend ce qui se passe. On voit aussi son doute face à la machine. C'est-à-dire qu'il ne sait pas à quoi il va être confronté. C'est-à-dire, il arrive au match, il ne sait pas ce qu'il va y avoir en face. Il n'a pas eu accès aux parties. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement vrai en tant que joueur d'échecs quand on regarde cette série. C'est captivant, c'est vrai que quand on n'a pas vu les parties de l'adversaire, on ne sait pas à quoi s'attendre.
On va revenir au côté informatique dans un instant, mais est-ce qu'on parlait du jeu de la reine sur Netflix, Rematch sur Arte, est-ce que vous, en tant que président de la Fédération Française des Échecs, vous avez constaté que ces séries-là suscitaient un engouement particulier? Est-ce que des gens vous en parlent? Est-ce que des gens veulent jouer aux échecs après les avoir vus, se renseignent, s'inscrivent? C'est quelque chose que vous avez matérialisé, cet engouement nouveau?
Alors, on l'a matérialisé pour le jeu de la dame. Alors là, très clairement, il y a eu un alignement de planètes pour le sport échec qui était incroyable. Le confinement, la sortie de la série Netflix et l'explosion du jeu en ligne. C'est-à-dire, aux échecs, on peut jouer en ligne, comme sur un vrai échiquier. On clique, démarre une partie, on a un adversaire du même niveau que nous en même temps. Donc, tout le monde était bloqué à la maison, il n'y avait plus de sport à la télé. Il y avait la série Netflix, le jeu de la dame. Et chacun, dans l'inconscient collectif, sait que les échecs sont un sport noble, valorisant. Il y a souvent un échiquier qui traîne à la maison. Et on peut jouer en ligne. Donc tout cet ingrédient-là a fait qu'on est passé à la Fédération Française des Échecs de 50 000 licenciés à peu près 80 000 aujourd'hui. Donc c'est une énorme progression. Sur 3 ans, il y a eu 30 000 licenciés en plus. Et sur le nombre de pratiquants, c'est encore plus large, plus vaste.
La série se passe, vous l'avez rappelé, en 1997. Enfin, les faits datent de 1997. Une machine bat un homme. On en est où de ce point de vue-là, des années après? On est en 2024. J'avoue que je ne me suis pas renseigné volontairement pour que vous m'apportiez la réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus fréquent que les ordinateurs battent les joueurs d'échecs humains?
Alors, l'humain n'a plus aucune chance. Ouais. C'est terminé. On peut dire pratiquement depuis 97, hein, ouais. À peu de choses près. Aujourd'hui, on utilise l'ordinateur pour se préparer. C'est vraiment un travail d'analyse et de préparation. Donc, c'est un outil. C'est plus un adversaire, il n'y a plus de match. Mais par contre, c'est un outil qui va nous servir à préparer les rencontres entre champions. Tous les champions utilisent désormais la technologie de l'ordinateur. Il y a eu un autre basculement après IBM et 97. Il y a eu Google DeepMind avec l'intelligence artificielle qui a battu l'ordinateur qu'on considérait tous, joueur d'échecs, comme imbattable, qui était l'ancienne technologie. Donc ça, c'est le deuxième basculement. Le premier, c'est effectivement l'ordinateur bat l'homme. Et le deuxième, c'est l'intelligence artificielle bat l'ordinateur, pour ainsi dire. Et ça continue à se poursuivre.
On parle beaucoup d'intelligence artificielle sur énormément de thématiques, des choses plus légères, des choses plus graves, notamment dans le cinéma, des acteurs. Il y a eu des grèves, des scénaristes à Hollywood qui ne voulaient pas être remplacés par des outils d'IA. Vous, de votre position dans les échecs en France, est-ce que c'est quelque chose qui a tendance à vous inquiéter ou pas, l'intelligence artificielle?
Alors moi, je suis plutôt progressiste sur la technologie. Je pense que c'est des avancées pour l'humanité, pour le confort de tous. J'en vois les défauts, j'en vois les risques, bien entendu. En ce qui concerne les échecs, l'intelligence artificielle, il n'y a aucun doute, c'est une vraie progression. On a appris des nouvelles stratégies, des nouvelles techniques. C'est une petite révolution, c'était extraordinaire. Après, c'est plus une question philosophique sur les risques impliqués par l'IA. Et là, je compte sur nos grandes entreprises, nos grands philosophes pour encadrer ça et qu'on en ait tous les bénéfices. C'est un outil, ce n'est pas un danger.
Merci beaucoup. Alors, pendant que vous parliez, notre autre invité est venu s'installer à côté de vous sur France Info, Philippe Génada, bonjour.
Bonjour Mathéo.
Alors, généralement, on crée des petites alchimies entre nos invités. Est-ce que vous êtes amateur d'échecs? Est-ce que ça vous intéresse ou pas du tout? Soyez honnête.
Je vais être très honnête, ça m'intéresse. Je suis pas un très bon joueur, donc je ne joue jamais.
Mais vous
moi,
aimez
c'est la gagne ou rien.
Oh bah oui, je comprends. Je comprends. C'est aussi pour ça que vous êtes là. Merci beaucoup. En tout cas, merci Éloi Relange. Restez avec nous, évidemment, si vous le souhaitez. Président de la Fédération française des échecs pour cette série Rematch Kasparov contre la machine sur Arte. 3 épisodes ce soir à 20h55. Philippe Janeda est avec nous. Alors, si la qualité d'un livre devait se mesurer à la longueur d'un ouvrage ou même à celle de ses titres, vous en seriez le champion. Ce qui est encore mieux, c'est que les 10 romans sont tous de très bons livres. La désinvolture est une bien belle chose, sans preuve et sans aveu. Au printemps des monstres, la serpe, la petite femelle et on en passe. On est très content que vous soyez là. Je ne dis pas ça par flagornerie, mais sachez que quand on a annoncé qu'on vous invitait dans une réunion interne à la radio, plein de gens ont dit « Ah oui, c'est super » ou « Je l'adore ». Est-ce que vous avez conscience de dégager ce capital sympathie-là et est-ce que vous le comprenez ?
Alors, est-ce que j'ai conscience? Ben, ça me fait plaisir. En tout cas, est-ce que je le comprends? J'espère. Les gens qui disent je ne comprends pas, qu'on m'aime bien, c'est des gens qui ont forcément des soucis. Non, je pense que ça vient surtout du fait que dans mes livres, je suis un peu le représentant des lectrices et des lecteurs. Je leur suggère de m'accompagner dans mes voyages, toujours modestes voyages, hein, mais et mes recherches. Donc je pense qu'ils se créent, j'espère, en tout cas c'est ce que je cherche, une sorte de familiarité, de complicité.
Dans un instant, ce sera la pause du Silinfo, mais juste un mot. Vous étiez dans les 8 finalistes pour le prix Goncourt, il sera décerné le lundi 4 novembre. Depuis mardi, ils ne sont plus que 4, votre nom n'y est plus. Alors soyez honnête, est-ce que ça vous a vexé, blessé, ou au contraire un peu soulagé, ou un peu de tout ça?
Vous me demandez toujours d'être honnête. Je suis honnête en permanence, Mathéo.
Moi, je vous le demanderai plus.
Ni soulagé, ni surtout vexé, blessé, etc. Je pense qu'il faut vraiment voir le bon côté. On peut toujours voir les choses de deux côtés. Moi, j'ai vu des auteurs ou des autrices, souvent des auteurs d'ailleurs, tristes ou furieux de pas avoir le concours, de sortir d'une liste, alors qu'il faut regarder dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, depuis un mois et demi, comme tous les 16 premiers de la liste et encore a fortiori les 8 qui étaient là encore avant-hier, on a vécu un mois et demi formidable, quoi. Partout où on allait en France, dans les salons du livre, les librairies, les gens disaient « on est content pour vous, on croise les doigts, etc. » C'était formidable. Maintenant, ça s'arrête. Aux échecs, j'aime pas perdre. Dans la littérature ou aux courses de chevaux, je joue beaucoup aux courses de chevaux. Ça apprend non pas à perdre, mais à ne pas gagner.
Vous avez eu le prix de Flore, vous avez eu le Fémina, oui, en 2017 pour la Serpe. Est-ce que les récompenses, c'est important ou pas? Ou est-ce que c'est superficiel?
Alors, à peu près ni l'un ni l'autre, si c'est important dans un domaine assez pragmatique, c'est-à-dire que ça fait beaucoup plus de lecteurs qui découvrent les livres, ça fait des sous, de l'argent. Et c'est pas superficiel, mais disons que ce n'est jamais que l'avis de quelques jurés, aussi talentueux, estimables soient-ils. Aucun livre ne peut plaire absolument à tout le monde, et heureusement, moi je serais terrifié si mes livres plaisaient à tout le monde. Donc après, c'est une affaire de sensibilité, de... Ça fait plaisir. Quand on a un prix, ça fait plaisir. Moi, quand j'ai eu le Fémina, j'ai eu une réaction de gamin. J'ai fait « Ah !» Alors qu'une heure avant, j'aurais dit « Non, bah, si je l'ai, c'est bien, mais enfin bon. » Et puis, quand on ne l'a pas, surtout, il ne faut pas prendre ça comme ni comme une vexation, ni comme une injure, un désespoir, je ne sais pas. Enfin, c'est vraiment « On l'a ou on ne l'a pas, mais voilà. »
Et la suite de Tout Public avec vous, Matteo Maestrachi.
Toujours avec Philippe Janeda qui a publié un nouveau livre au mois d'août, toujours chez ses complices de Mialet Barreau. La désinvolture est une bien belle chose. Philippe Janeda, vous nous ramenez, nous lecteurs, dans les cafés, ou en l'occurrence dans un café de Saint-Germain-des-Prés dans les années 50, c'est bien cela?
Ouais, au tout début des années 50, et même c'est assez précis, entre août 50 et fin 53.
Comme souvent, vous êtes parti d'une phrase, d'un témoignage, d'une citation, d'une photo, pour vous focaliser sur un personnage. Là, encore une fois, pardon pour la question qu'on a dû vous poser souvent, mais quel a été l'élément déclencheur? Parce que je crois que là aussi, c'est passionnant.
Alors, l'élément déclencheur de mon intérêt pour cette histoire, c'est... J'écrivais mon livre précédent, Au printemps des monstres, je faisais mes recherches. Enfin, j'écrivais pas, je faisais les recherches en 2018-2019. Complètement par hasard, je tombe dans un vieux journal de 1953 sur... quelques articles qui annoncent la mort, le suicide apparemment, de la plus jolie fille de Saint-Germain-des-Prés, la plus libre, la plus heureuse, la plus légère, qui était folle amoureuse. Tous les garçons étaient amoureux d'elle, mais elle était amoureuse du plus beau soldat américain du quartier, qui était aussi amoureux d'elle, et qui à 20 ans, elle avait été mannequin chez Dior brièvement, et à 20 ans, elle se jette par la fenêtre. Donc ça m'intrigue, je cherche un tout petit peu, mais comme j'étais sur l'autre livre et que je sentais qu'il allait faire 800 ou 900 pages, je me suis pas attardé là-dessus. Et puis, une fois que ce livre précédent était terminé, je me suis de nouveau penché sur elle, mais c'était, je pensais pas en faire un livre. C'est-à-dire vraiment, je me disais pas, je vais écrire un livre sur, même si un suicide est toujours incompréhensible, je vais écrire un livre sur cette jeune fille qui avait tout pour elle, comme on dit bêtement, et qui s'est tuée à 20 ans. Mais en me renseignant sur elle, j'ai trouvé une photo d'elle, j'ai voulu savoir d'où venait cette photo, j'ai appris assez rapidement qu'elle venait d'un ensemble de photos, d'un livre de photos, publié dans les années 50. J'ai réussi à me procurer ce livre d'occasion sur Internet, et maintenant il est presque impossible à trouver, j'ai eu de la chance. Et quand j'ai ouvert ce livre, je suis tombé sur des dizaines et des dizaines de photos de très jeunes gens, 16-18 ans, enfermés dans un petit bistrot, tous magnifiques, joyeux ou désespéré, insouciant ou complètement paumé. Et là, j'ai senti que j'avais quelque chose qui pouvait m'attirer pour un livre.
Une bonne matière. Cette jeune femme, c'est Kaki, c'est son surnom. Elle s'appelle Jacqueline Arisp. Son histoire donc vous a happé. Vous parlez d'elle, mais vous parlez aussi de la France de ces années-là, d'une atmosphère, des artistes autour d'elle. Et vous l'avez dit, surtout, j'ai l'impression que vous êtes absolument fasciné, pour ne pas dire jaloux, par l'insouciance de cette jeunesse-là qui n'avait pas de nuages au-dessus de la tête. Alors.
Ouais, c'est la désinvolture pour le coup. En fait, ce sont des jeunes gens qui est particulier dans cette génération. Ils ont eu 10 ans pendant la guerre, pendant l'occupation. Donc ils n'ont pas pu vivre cette période très importante de l'enfance, entre la toute petite enfance et l'adolescence, celle où le cerveau et le cœur s'ouvrent un peu au monde. Ils n'ont pas pu vivre ça correctement, donc ils ont essayé de le recréer après-guerre, à 16-17 ans. Pardon. Ils ont essayé de vivre comme quand on a 9 ou 10 ans. Ils se sont mis dans un endroit clos, une sorte de sanctuaire, isolé complètement du monde. Et ils ont pu vivre pendant 2 ou 3 ans sans aucune contrainte, aucune responsabilité, aucun projet d'avenir. Le travail, les études, les arts, rien ne les intéressait, comme un enfant de 8-9 ans. Sauf que, alors c'est merveilleux, mais je suis pas jaloux, parce que des morceaux de désinvolture ou d'insouciance, on peut en avoir dans la vie, des morceaux d'enfance, de ce qu'on veut. Sur une longue période, c'est impossible. Et eux ont vécu ça à fond, mais ils voulaient rester enfant. Mais rester enfant à 17 ans, ça va. À 25, à 30, à 40, c'est impossible.
Philippe Janada, dans vos premiers livres, vous parliez surtout de vous. Depuis un moment, vous, avec cette démarche qu'on a documentée, enfin, que j'ai expliquée, sur laquelle on va revenir, d'enquête autour d'un personnage ou d'une histoire, vous imaginez, depuis plusieurs ouvrages, d'autres vies que la vôtre, pour reprendre à peu près le titre du livre d'Emmanuel Carrère.
Ouais, en fait, pendant sept romans, j'ai raconté ma vie parce qu'elle progressait. C'est-à-dire, mon premier roman, c'est un jeune homme à Paris, un peu naïf, qui cherche l'amour. Mon deuxième roman, c'est le même genre de jeune homme, c'est plus ou moins moi encore, un coup de foudre pour une fille complètement dingue dont il tombe fou amoureux et qui le fait souffrir. Le troisième, c'est la même fille, le même homme, mais c'est l'enfer de la vie conjugale avec un bébé. Enfin, ça suivait ma vie. Et puis, ma vie, au bout d'un moment, est devenue d'une platitude, d'une monotonie, qui, moi, me délecte, que j'adore, mais pour la littérature, c'est la déroute totale, quoi. Et donc, c'est vraiment, vous disiez, vous parliez de Carrère, c'est vraiment, en passant devant une librairie, le simple titre d'autres vies que la mienne, je me dis tout d'un coup, mais, parce que moi, j'ai pas envie d'écrire de la fiction, ça m'intéresse pas beaucoup en tant qu'écrivain, en tant que lecteur, oui. Donc, je me disais, c'est mort, ma vie est plate. Et puis, d'autres vies que la mienne, je me suis dit, je vais peut-être essayer de raconter la vie des autres. Et, sur les conseils futés de mon éditeur, Bernard Barrault, un de mes deux éditeurs, il m'a dit, d'accord, change de style, parle d'autres personnes, mais je voudrais que ton roman commence par je. Mmh. C'était une manière de me dire, n'oublie pas de t'incruster dans tes livres, et c'est ce que je fais maintenant, pas par narcissisme, mais pour alléger des histoires souvent très tristes.
Vous le faites beaucoup, et évidemment, ça a cet effet-là. Mais vous le faites, vous ne vous forcez pas à le faire, vous le faites spontanément. C'est-à-dire que vous parlez de vous, vous dites où vous dites dans quel hôtel miteux ou quel bar bruyant vous êtes. Vous vous mettez en scène, mais c'est conscient. Et puis c'est aussi, ça explique peut-être l'affection qu'ont les gens pour vous dont on parlait précédemment.
Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je me vois comme une sorte de journaliste, d'envoyé spécial de mes lecteurs et lectrices, enfin des lecteurs et lectrices. Dans les salles d'archives où je vais, dans les bistrots où je vais pour essayer de voir ce qui a changé ou n'a pas changé entre 2024 et 1952. Et je parle de moi de manière jamais grave ou profonde, c'est toujours des petites choses pour que tous les gens qui lisent mon livre, si possible, m'accompagnent dans mes petites virées. Je suis juste je dis dans le livre, je me vois un peu comme un chauffeur de bus, un voyage organisé. Il y a tous les lecteurs derrière. Moi, je suis le chauffeur de bus et puis je dis parfois, nous passons devant la bibliothèque. Voilà.
Sur votre façon de travailler, parce que vraiment, on a envie de savoir les coulisses, vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler, mais de l'extérieur, on se dit que c'est titanesque, que vous devez passer des jours, des nuits à vous documenter, à chercher, à vérifier, à vous déplacer. Parfois, vous laissez, vous l'avez dit tout à l'heure, une enquête et un livre en plan pour une autre histoire. Ça doit être épuisant. Est-ce que vous êtes épuisé ou est-ce que vous arrivez à vous ménager des moments de paix intérieure?
Alors, je ne suis pas épuisé parce que je suis un colosse, un véritable colosse. Et puis, non, surtout, souvent, les lecteurs me disent quel travail, ça doit être terrible, comme vous venez de dire. En fait, c'est une passion. Pour moi, c'est ce que j'aime faire dans la vie. Aller dans les archives, les vieux papiers, fouiller, construire des histoires. Et je dis souvent, c'est comme si on disait à un joueur de ping-pong, un grand joueur de ping-pong, si on lui disait, ça doit être terrible, tu passes ta journée à taper dans une petite balle, quoi, avec ta raquette. Mais en fait, c'est ce qu'il aime, c'est le but de sa vie. Donc moi, plus il y a du travail, plus c'est compliqué, plus c'est long, plus je suis content.
Non, mais ce que je veux dire par là, vous voyez où je veux en venir, c'est que vous avez une vie sociale, une famille, des amis. Non, mais voilà, vous en avez plus. Non, mais voilà, comment vous jonglez avec tout ça? Est-ce que, je sais pas, je sais qu'il y a des auteurs qui écrivent le matin et se reposent ensuite, ou vous avez une espèce de, est-ce que vous avez une discipline?
Ah, bah, c'est le moins qu'on puisse dire, mais surtout, je n'ai pas de vie sociale. J'ai pas de vie sociale, j'ai pas d'amis, ma chère épouse, enfin, il y a plein de gens que j'aime et qui m'aiment bien, mais je veux dire, pas d'amis, je vais jamais dîner chez personne. Du matin au soir, je suis enfermé chez moi, sauf là, en période de tournée, quoi. Je suis enfermé chez moi, je sors une heure par jour pour aller au bistrot d'en bas. J'ai même pas à traverser la rue, c'est dans le même pâté de maison. Je ne vois que ma femme. Et c'est notre fils, quand il passe nous voir, c'est plus que pas mal. C'est le monde entier, ma femme. Et donc voilà, non, j'ai pas de vie sociale du tout. Surtout maintenant. Avant, c'est vrai, quand j'avais 30 ans, 35 ans, je sortais beaucoup plus. Je voyais des gens. Là, maintenant, je suis dans ma grotte.
Et vous n'avez pas de téléphone portable? Donc
non.
Si vous dites, je suis jamais invité. Enfin, je ne vais pas dîner chez les gens. Si jamais des auditeurs veulent vous inviter, on leur donnera votre adresse mail.
Ouais.
Je plaisante. Vos livres, je le disais, Philippe Janada, sont denses, touffus, plutôt longs. Moi-même, j'avoue.
C'est horrible.
Mais j'avoue les adorer. Mais j'en ai laissé certains en cours pour les reprendre plus tard. C'est d'ailleurs, je dois être honnête, mais c'est moi qui suis honnête avec vous.
Ouais.
Le cas du dernier. Est-ce que les gens vous le disent parfois, ça, que ils ont commencé votre livre et qu'ils ont adoré, qu'ils en sont à la moitié ou deux tiers? Et est-ce que vous vous formalisez quand on vous dit ça?
Non, surtout pas. On me le dit très souvent. Hein. Comme il y a beaucoup de personnages, surtout dans celui-là, on me reproche souvent d'avoir trop de personnages, trop de digressions. Là, je choisis comme thème un groupe de jeunes. Donc, je suis obligé de parler de tous. Et je sais que dans les premières pages ou les premières dizaines de pages, on est un peu perdu, noyé, etc. Mais moi, tout ce que je dis, c'est faites-moi confiance, continuez à avancer, ne retenez pas les noms, les détails. Je vous guiderai jusqu'au bout, mais quand les gens me disent « je me suis noyé dans vos parenthèses, vos digressions, tous vos personnages et les grands-parents de vos personnages », évidemment, je comprends la lecture. Et moi, je suis le premier, j'ai toujours dit à mon fils « la lecture, il n'y a rien de sacré, la littérature. Si un livre, au bout de 50 ou 60 pages, soit t'ennuie, soit tu sens que c'est pas pour toi, soit ça t'intéresse pas, tu le refermes, comme quand tu changes de série sur Netflix.
Mmh. »
Et puis voilà, donc moi, non, évidemment, ça ne me gêne pas du tout.
Vous parliez tout à l'heure de l'évolution de vos écrits et de votre bibliographie en disant que après 7 romans où vous parliez de vous, vous avez eu envie de changer. Est-ce que là, les derniers ouvrages que vous avez écrits, est-ce que vous avez envie de continuer dans cette veine-là ou est-ce que vous sentez une lassitude poindre un petit peu?
Non, alors pas de lassitude, j'ai envie de continuer tout en changeant. Par exemple, là, depuis 3-4 livres, je faisais des affaires criminelles ou des erreurs judiciaires. Là, il n'y a pas d'erreur judiciaire, il n'y a pas de crime, en tout cas en apparence. Donc je varie un petit peu.
Un peu tragique quand même.
Oui, il y a du tragique et surtout il y a des archives. C'est ce qui me passionne, mais les archives, c'est la vie. Donc il y a toutes sortes de livres qu'on puisse écrire en se servant des archives. Pardon.
Vous serez toujours le bienvenu à France Info.
Merci beaucoup.
Philippe Janada. Je rappelle, La Désinvolture est une bien belle chose, publiée aux éditions Mialet Barreau.
Et pour réécouter tout public, rendez-vous sur franceinfo.fr. Merci à vous, Matteo Maestrachi.